Eh bien, bonjour, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va bien aussi, par la grâce de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de requêtes de prière. Nous prions pour vous, nous ne vous oublions pas. Et vraiment, on ne vous oublie pas, on prie pour vous. Si on dit qu'on prie pour vous, on prie pour vous. Et que Dieu vous bénisse, soyez forts, attendez-vous à un miracle de Dieu. Je voudrais faire une lecture dans Jean chapitre 20 et verset 21. Jésus leur dit de nouveau, donc c'est à ses disciples qu'il s'adresse, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Jésus nous dit, par ailleurs, dans un texte de l'évangile de Jean aussi, qu'il est venu pour nous donner la vie abondante. J'y crois de tout mon cœur. Et comme je vous l'ai toujours dit, la vie, ça n'est pas l'argent. Jésus ne nous dit pas, je suis venu pour que mes brebis aient de l'argent en abondance. Ça, c'est. C'est. Ouais, enfin, il y a des rigolos qui prêchent un évangile de l'abondance. C'est quelque chose d'épouvantable. C'est vrai, mais parce qu'il nous parle de vie, Jésus, pas d'argent. Alors, bien sûr, l'argent fait partie de la vie. Mais il ne faut pas tordre les Écritures. Ce que Jésus nous dit, c'est que nous avons en lui la possibilité de vivre abondamment. Et ce soir, je voudrais vous montrer une voie que peu de serviteurs de Dieu montrent. Prions. Jésus, je te prie d'éclairer l'esprit de chacun et de chacune, afin que chacun et chacune soit rempli de ton esprit et puisse ensuite devenir eux-mêmes une bénédiction puissante pour les autres. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. D'abord, il y a toujours une condition. Il y a une condition. Là, par exemple, Jésus parlait à ses disciples. Il ne parlait pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas vivre la vie abondante, bien qu'étant chrétien. Et pourquoi? Parce que tous n'ont pas conscience de ce que Jésus veut dire par là, déjà, premièrement. Et que pas mal de croyants croient le contraire, justement, de ce que Jésus enseigne. T'es transformé par la religion, par toutes sortes d'idées bizarres. Par exemple, je pense qu'avoir une vie abondante, c'est la volonté de Dieu. Mais penser qu'avoir une vie abondante, c'est avoir de l'argent en abondance, ça n'est pas vrai. Vivre abondamment est une merveille, mais Dieu ne donnera cette vie abondante qu'à ceux qui ont une bonne intention. L'intention de faire quelque chose avec cette vie abondante, quelque chose de bien, quelque chose selon sa volonté. Alors, comme pour tout ce que Dieu a créé, il y a des lois. Ben oui, il y a des lois. On est à l'école du Saint-Esprit, on écoute, on apprend. Il y a des lois. Il y a des lois qui entrent en action. Alors, suivez-moi bien. Nous sommes très complexes. Vos intentions, vos bonnes intentions sont très importantes parce que elles réveillent votre attention. À quoi est-ce que vous êtes attentif? Dans notre siècle, on est hypnotisé par les infos, par les médias, et on est attentif à ce qu'on veut bien nous montrer. C'est dangereux. À quoi êtes-vous attentif? Il faut réveiller, parce que quand on est attentif, cela réveille aussi nos intentions. C'est comme un cercle. Les intentions réveillent l'attention, qui réveille l'intention, etc., etc. Si j'étais plus fort, si j'étais plus sage, si j'étais plus riche, plus éloquent, plus dynamique, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. La vie, ben, c'est tout cela. C'est la force. C'est la sagesse, c'est la richesse, c'est l'éloquence, c'est le dynamisme, etc., etc. C'est votre force physique, c'est votre force mentale, c'est votre force spirituelle, c'est votre sagesse, ça, tout ça, c'est la vie. C'est votre facilité de communication, et c'est aussi l'argent. Amusez-vous à demander aux gens, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez être Dieu pendant 24 heures ? Ou plus simplement, demandez-leur, que feriez-vous si vous gagniez 10 millions au loto, ou qu'on vous donne 10 millions d'euros comme ça? Qu'est-ce que vous feriez? Les gens ne sont pas prêts à répondre quelque chose d'intelligent parce qu'ils n'y ont pas pensé sérieusement, parce qu'ils n'envisagent même pas que ça peut arriver. Les gens n'y pensent pas vraiment. Il dit, ah, si j'avais 1 million, ben, j'aiderais ma famille, j'aiderais mes amis. Oui, c'est gentil. Mais leurs réponses sont assez décevantes quand même parce qu'ils ne portent pas vraiment leur attention sur ce qui se passe autour d'eux. Et cela parce qu'ils ne pensent pas pouvoir avoir pour pouvoir participer à l'amélioration de ceci ou de cela. On est tous en train de courir à la fin, pour la fin du mois, quoi, je veux dire. Un chrétien est un chrétien, c'est bien. Mais il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Un disciple, il a des marches à gravir pour devenir un disciple accompli. Et Jésus dit que celui qui est un disciple accompli, il peut faire absolument tout ce que Jésus faisait lui-même. Et puis il dit même encore des choses plus grandes. Mais où est-ce qu'on voit cette sorte de disciples? Où est-ce qu'on les voit, ces gens-là? Alors bien sûr, il faut l'avouer, le monde nous saoule avec tant d'informations qu'on se sent impuissant devant tous ces besoins. Alors la plupart du temps, on renonce, on baisse les bras, et puis les gens disent, bon, de toute façon, ce que je pourrais faire, c'est si peu que ça vaut même pas la peine. Et puis le découragement plonge les chrétiens dans une sorte de torpeur, et puis voilà, ben, pense à autre chose. Vous qui m'écoutez, cultivez votre intention d'être et de faire ce que Jésus était et faisait. Cultivez ça. Et si vous cultivez votre intention sainte, votre attention va s'accroître. Vous allez voir les vrais besoins. Et vous allez pouvoir y pourvoir par vous-même, avec l'aide de Dieu. Parce que les deux combinés, les intentions et les attentions saintes, établissent des résultats identiques à ceux qu'obtenait Jésus. Vous obtiendrez un approvisionnement égal à vos demandes. Parce que vos intentions seront maîtrisées par l'amour de Dieu qui vous animera et par l'amour que vous aurez pour les autres. Parce que votre attention sera réveillée. Votre attention sera sélective, votre attention sera sanctifiée et elle sanctifiera, c'est-à-dire elle mettra à part certains besoins auxquels vous pourrez pourvoir par votre amour, par votre foi en action, alors que d'autres, c'est vrai, sont impossibles, c'est trop, c'est pas possible, il faut commencer par des choses qui sont possibles et pas se dire, oh là là, de toute façon, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses, et puis moi-même, je suis dans le besoin. C'est vrai, mais frères et sœurs, on est tous là. C'est pourquoi je vous enseigne ce soir. Mais tant que vous vivez comme monsieur et madame tout le monde, il n'y a rien d'extraordinaire qui va sortir de vous. Jésus disait un jour, Mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire si... Il faut faire des choses extraordinaires. Il attend de ça, ça. Il attend ça de nous. Lui, il faisait ça, il attend ça de nous. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'extraordinaires qui sortent des chrétiens? Vous savez pourquoi? Parce que la majorité des gens du monde sont devenus des aquabonistes. Et ça, c'est un état d'esprit qui est maintenant entré dans l'Église. À quoi bon? Je ne croyais pas que je suis en train de juger quelqu'un en particulier, parce que moi-même, ça m'arrive. J'étais il n'y a pas longtemps, au mois de mai, avec mon petit-fils Lucas et notre frère Olivier Navez au Burkina Faso, et on a distribué des tonnes de mille, de nourriture à des gens pauvres et tout. Mais maintenant, on pourrait dire à quoi bon, parce que maintenant, ils sont encore dans le besoin, parce qu'il n'y a pas eu les récoltes nécessaires, on pourrait dire à quoi bon, puis se décourager, puis plus rien faire. Vous voyez, moi aussi, j'ai des moments comme ça. C'est pourquoi je vous parle de choses que je connais. Je vous parle pas de choses qui viennent comme ça. Non, c'est parce que je vis ces choses-là. Alors je veux partager avec vous mes recherches, est-ce que je trouve ce qui m'aide afin que vous aussi vous soyez aidés. Quand j'écoute les prières, très souvent j'entends des choses tellement vagues. Seigneur, je te prie pour qu'il n'y ait plus de guerre. Comment vous pensez que c'est possible une chose pareille? Alors que c'est écrit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, etc. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Seigneur, je te prie que vraiment tu vois tous ces gens qui meurent de faim. Oui, bien sûr, mais c'est aussi écrit qu'il y aurait des famines en divers lieux juste avant la fin, que ça serait que le commencement, que ça deviendra de pire en pire. Et puis, alors priez pour qu'il n'y ait plus la faim dans le monde. C'est une prière de quoi, ça? Je suis désolé, c'est vrai que ça fait drôle d'entendre ça, mais il faut être réaliste. Seigneur, pourvois aux besoins de tous ceux qui ont faim. Hein, on se dit, ah ben moi je serai le Seigneur, je pourvoirai aux besoins de tous ceux qui ont faim. Et pourquoi il ne le fait pas? Ô Jésus, guéris tous les malades. Tu es tout puissant, fais-le. Toutes ces prières sont pleines de bonnes intentions, mais pas tellement pleines d'attention. Il n'y a pas une attention, il y a quelque chose qui manque de logique, il y a quelque chose qui manque de réalisme. Si un homme, une femme, a une intention qui est vivifiée, elle va voir ce qu'il y a à faire dans sa famille, déjà premièrement, dans son immeuble, dans sa rue, avant de voir ce qu'il y a à faire en Chine. Bénis les petits Chinois, bien sûr, Seigneur, bénis les petits Chinois. Mais il y a plein de gens dans ta rue qui ont déjà besoin que tu les bénisses, toi, au nom de Jésus, avec le peu que tu as. Et votre demande d'aide va s'accroître. Elle va avoir une plus grande intensité au fur et à mesure où vous allez recevoir, vous allez donner encore plus, et vous allez recevoir encore plus pour pouvoir donner encore plus. Et Dieu pourvoira avec un approvisionnement plus important. Parce que ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui puissent résoudre beaucoup de problèmes au nom de son Fils Jésus. C'est ça que Dieu cherche. C'est une loi. Il pourrait le faire tout seul, mais il veut le faire avec nous. Quand vous augmentez consciemment votre demande, l'approvisionnement suit. Mais il faut que ça soit conscient, intelligent. On dit toute chose, tout est possible à celui qui croit. Bon, vas-y, marche au plafond. Non, il y a déjà des tas d'autres choses que tu peux faire et qui sont possibles avant de demander un truc idiot. Vous voyez, il y a des échelles, il y a des lois, il y a des règles. Vous obtiendrez un approvisionnement de vie, d'énergie, de vitalité, de bonnes idées pratiques pour pouvoir être et faire comme Jésus. Et Dieu mettra en plus sa touche miraculeuse sur vos actes, c'est-à-dire il y aura le côté miraculeux. Il faut déjà poser les actes. Jésus nous enseigne par la Bible qu'en lui, nous avons le mouvement et l'être. Il nous enseigne aussi qu'il vit en nous en esprit, en souffle divin, et qu'il est amour. Alors, est-ce que vous avez pensé à ça? Tout à l'heure, on a lu, il souffla sur eux. Est-ce qu'il a fait ça et puis c'était inutile? Non, il a fait ça parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il souffla sur eux. Quand vous respirez cette vie. Hier, c'était une date terrible pour les gens de mon âge. Nous avons tous appris la mort de Johnny Hallyday. Et les présentateurs de télévision disaient, il a rendu son dernier souffle à encore là. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose quand on vient au monde, on sort du ventre de la maman et puis l'infirmière ou sage-femme nous prend par les pieds et puis nous donne une bonne tape sur les fesses et on prend notre première respiration. Et puis on se met à pleurer en général. Parce que nos poumons s'ouvrent. Le souffle, c'est la vie. Le souffle de vie. Ce souffle dont nous avons besoin pour vivre dans cette condition humaine. Les poissons ne respirent pas tout à fait la même chose que nous, hein. Mais nous, c'est comme ça. Ce souffle est vital. Toute la journée, vous avez respiré. Tous les jours de votre vie. Plus de respiration, c'est la mort. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Regardez votre montre, là, maintenant, là, tout de suite. Vous regardez votre montre, tiens, voilà. Est-ce que vous imaginez? Quand l'aiguille aura bougé de quelques millimètres, c'est-à-dire 3 minutes à peu près, vous serez mort. Pourquoi? Parce que si vous cessez de respirer maintenant, dans 3 minutes, vous êtes mort. Vous voyez à quoi ça tient? Le souffle. La respiration, c'est vital. C'est la vie. Mais ce mystère essentiel à la vie n'est pas pris en considération généralement par les pasteurs, non. Il nous est dit que Paul respirait la menace et le meurtre. Acte 9, 1. Il respirait quoi? Il respirait le souffle de la mort, le souffle du diable. Il respirait la souffle. Il respirait la menace et le meurtre. Il nous est dit, dans Psaume 27, 13, que les ennemis de David ne respiraient que la violence. Pourquoi c'est écrit « ils respiraient la violence » ? Parce que ils prenaient en eux le souffle de la violence, le souffle de l'ennemi pour être des gens violents. C'est pas de la poésie. Ça fait partie des lois, des choses de la vie. Le souffle est quelque chose de très important. Et vous respirez quoi? Vous aspirez à quoi? Vers quoi se tourne votre attention? Est-ce que vous respirez le souffle de Dieu, sa vie? Vous savez, chaque fois que vous respirez, vous remplissez vos poumons d'air. Et cela vivifie tout votre corps, toutes vos cellules en bénéficient. Est-ce que vous respirez profondément? Ou est-ce que vous respirez juste pour survivre? Prenez chaque jour un moment pour respirer profondément, consciemment, ou autrement dit, prenez le temps de vivifier les cellules de votre corps. Et puis faites bien attention, qu'est-ce que vous êtes en train de respirer? La haine, la jalousie, la violence? Non, 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 non. Mettez-vous dans un état d'adoration devant Dieu et respirez profondément. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Déjà que dans le monde, on souffre de la malbouffe, si en plus il faut encore qu'on souffre du fait de mal respirer, enfin c'est vous qui voyez, hein. Pourquoi est-ce que si peu de gens accordent de l'importance à ce qui est pourtant vital, la respiration, inspirer le souffle de vie abondante qui va vivifier vos cellules, qui va oxygéner votre cerveau, vous permettre d'avoir des pensées plus claires, plus nettes, plus sereines. Si vous respirez mal, ou si vous respirez un air vicié, vos pensées ne seront pas les mêmes que si vous respirez bien et un air pur. C'est vraiment vrai, hein? Alors, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, quelle intention avez-vous? De croire que Jésus donne la vie abondante? Ok, mais alors, comment se fait-il que vous ne soyez pas dans cette abondance? Il y a quelque chose qui cloche. Soit Jésus raconte des bobards, soit le christianisme n'a pas bien saisi quelque chose de vital. Je pense et je penche pour la deuxième solution. Je crois que le christianisme a zappé quelque chose de vital, a oublié cela. Le christianisme a négligé le souffle divin, l'esprit de vie. Il souffla sur eux, leur disant « Recevez le Saint-Esprit, notre pouvoir de vivifier les cellules de notre corps en respirant la présence de Dieu, le souffle de Dieu. » Négliger le fait que pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, il a besoin de il a besoin d'oxygène, il a besoin de notre respiration. Ok, négliger. Faites comme vous voulez. Vous pensez peut-être que je suis en train de vous dire des choses qui ne sont pas spirituelles. Ok, je peux faire autrement. Je peux faire plus religieux. Mais je ne le ferai pas parce que ça m'ennuie. Je préfère vous parler directement. Respirer mieux, c'est établir une liaison consciente avec toute la vie, avec toute l'intelligence, avec toute la substance créée par Dieu. Faites un essai. Allez respirer profondément du chloroforme. Vous allez voir que votre conscience va être modifiée. Vous voyez, là, je la fais par l'absurde. On peut faire pire encore, hein. Allez respirer profondément dans des WC publics, juste derrière quelqu'un qui vient de vomir. Ça va créer en vous une réaction, non? Eh oui. Respirez de l'air pur. Si vous allez en montagne, en grande altitude, hein, je parle pas si vous allez dans le Jura, mais si vous allez en grande altitude, comme il y a des montagnes en Suisse qui sont très hautes, ça va vous saouler. Vous allez avoir l'impression d'être ivre. Ce que nous respirons et l'intensité avec laquelle nous respirons, ça a une grande importance et ça peut être vital ou mortel. Prenez le temps de respirer le souffle divin. Arrêtez de respirer le meurtre, la vengeance, la jalousie. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire de la poésie que l'esprit est appelé le souffle de Dieu. Il y a même un très beau mot hébreu pour le dire. Mais bon. Personne ne vous oblige à changer cela, ni vos habitudes alimentaires, ni rien du tout. Personne ne vous oblige. Je suis pas là pour vous obliger. Simplement, je donne un conseil. Simplement, je vous dis à vous qui êtes spirituel et intelligent, qui m'écoutez en ce moment, que je suis, c'est-à-dire Dieu, je suis, est esprit, vie, puissance, paix, harmonie. Et vous ne pouvez pas être avant de pouvoir faire. Et vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez faire que dans la mesure où vous êtes. C'est un cercle. Et il faut être dans ces deux choses en continuité. Respirez et expirez. Respirez et expirez. Avoir l'intention. L'être pour pouvoir faire. Faire pour pouvoir être. Tiens, je vous parlais de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il était? Chanteur. Pourquoi? Parce qu'il le faisait, il chantait. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes ce que vous faites. Et vous faites ce que vous êtes. Vous faites quoi? L'extraordinaire pour Dieu. Alors qu'il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pourrez le faire. Dieu nous a créés avec un corps, il faut l'utiliser avec respect, avec discipline. Et si vous le faites, vous n'allez pas tarder à voir la différence, parce que tout est lié, tout est lié. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout ça c'est lié. Si nous ne donnons pas à notre corps ce dont il a besoin, il ne fonctionnera pas bien. Et notre intelligence, notre mémoire, nos émotions, bref, tout ce qu'on va ressentir, ça va être bancal. Faites-en l'expérience, mes frères et sœurs. Prenez du temps pour vous, afin d'être utile aux autres. C'est la volonté de Dieu. Respirez le souffle de Dieu. Vous allez voir, si vous respirez profondément, mais vraiment profondément, au bout d'un moment, vous allez sentir comme aussi, comme en montagne, une espèce d'ivresse, comme la tête qui tourne un peu. Tout ça, c'est parce que vos cellules dans votre cerveau diront « Ah, enfin, de l'oxygène !»« Ah, enfin !» Et elles seront comme ivres, les cellules de votre cerveau, parce qu'elles ont besoin de ça. Parce que c'est la vie, parce que c'est vital. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous enseigner ce soir. Quelque chose de pratique, quelque chose de tout simple, quelque chose qui n'est pas condamnateur, quelque chose qui n'est pas une exhortation de ceci ou de cela, de choses spirituelles. Non, non, je voulais vous parler ce soir de choses pratiques et faisables. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et puis, dans la mesure où vous faites ce que je vous dis, eh bien, je suis sûr que je vais recevoir des lettres. Vous allez m'écrire, me dire, c'est vrai, Michel, j'ai vu une différence. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur de garder mes frères et sœurs et de leur donner bon courage au sein de leurs difficultés et aussi de la mesure dans leur joie et dans toutes ces choses que tu permets que nous puissions vivre. Sois béni notre Dieu pour ta protection. Amen. Amen. Au revoir.